vient d'être 18h passé de 15 minutes ici à Tawa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalungu, des programmes qui sont relayés par notre réseau de 52 radios partenaires dans tout le pays. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui a pour thème la problématique de l'insertion des personnes handicapées dans la vie active à Tawa. Les personnes handicapées représentent 4,2% de la population totale résidente du Niger, soit 715 497 personnes selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2012. À Tawa, ces personnes handicapées par groupe d'âge sont à plus de 120 000 personnes. Et selon des constats, cette couche de la population est souvent confrontée à certaines inégalités, la stigmatisation, la discrimination, la pauvreté, l'exclusion du système éducatif et de l'emploi et les obstacles rencontrés au sein du système de santé aussi. Alors que d'autres pays ont ratifié plusieurs instruments internationaux des droits humains, dont la Convention relative aux droits des personnes handicapées de décembre 2006. Alors comment se passe l'insertion des personnes handicapées dans la vie active à Tawa? À cette question et à bien d'autres, nous tenterons de trouver des réponses au cours des 45 minutes à venir. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir autour de moi Monsieur Ilos Ayourou, il est le communicateur à la Direction régionale de la santé publique, de la population et des affaires sociales de Tawa. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Monsieur Mokhtar Seydou Mohamed, président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, section de Tawa. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Nous avons madame Oumou Kaltoum, membre de l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs, une des deux membres de la Fédération. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous avons monsieur Kerb Harouna, le premier vice-président de la Fédération des personnes handicapées de Tawa. Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis donc Nafis Adam Sirfou à la modération. Merci, chers invités, d'être venus. Alors, la situation des personnes handicapées, pour planter le décor, je commence avec vous, monsieur Sahirou, de la DRSP, la Direction régionale de la santé publique, de la population et des affaires sociales. Comment se présente la situation des personnes handicapées dans la région?
Merci, madame, de m'avoir donné et l'occasion de m'exprimer par rapport à la situation des personnes en situation de handicap au niveau de la région de Tawa. Effectivement, comme vous l'avez dit, et la région de Tawa ne fait pas exception par rapport aux autres localités, aux autres régions du pays. Et comme vous l'avez introduit, effectivement, il y a beaucoup d'instruments internationaux qui ont été ratifiés par le Niger. Il y a aussi des lois qui ont été adoptées au niveau même à l'intérieur du pays, au niveau de le Niger. Et vous savez, malheureusement, ce n'est pas au niveau des personnes uniquement en situation de handicap un peu partout. Et vous allez voir, il y a beaucoup de textes internationaux, réglementaires, qui sont ratifiés ou bien adoptés, qui sont adoptés, mais l'application fait défaut. Aujourd'hui, tout ce notre problème, la problématique par rapport à l'insertion des personnes handicapées est relative à l'application et des lois adoptées. Parce que tout récemment, avec Mokhtar, on était à un atelier. Et l'atelier, c'était quoi en réalité? Donner la chance à toute personne en situation de handicap vraiment d'avoir une carte. Et la carte, c'est ça qui détermine vraiment le niveau du handicap. Et la personne sera complètement prise en charge par rapport à toutes les maladies on ne les souhaite pas.
Bon, merci bien donc, monsieur Ilos Ayourou. Alors, monsieur Mokhtar Seydou, aujourd'hui, vous êtes le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, section de Tawa. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation des personnes handicapées dans la région de Tawa?
Je crois que je n'aurai pas besoin de faire une présentation de la fédération ou
ce que renferme la fédération nigérienne des personnes
bien
handicapées.
Sûr, vous pouvez
parce que
oui.
Il y en a, je veux faire d'abord la nuance.
D'accord.
Il y en a qui pensent que une personne handicapée veut dire tout simplement quelqu'un qui ne voit pas ou quelqu'un qui est peut-être sur un tricycle en train de pédaler avec les mains. Voilà tout ce qu'il faut appeler personne handicapée, alors que c'est pas ça. En vérité, la fédération renferme plusieurs associations. Nous avons dans un premier temps, je reviendrai à votre question,
hein. Oui,
nous avons dans un premier temps l'association des personnes handicapées, de l'ANHL. Je veux dire l'association nigérienne des personnes des handicapés locomoteurs.
Oui.
Là, c'est ceux qui ont des problèmes de dans leur motricité. Nous avons l'UNAN, l'Union nationale des aveugles, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes de vision, non-voyants ou malvoyants. Ça, c'est l'UNAN. Nous avons encore l'ASN, l'association des sourds du Niger. Il s'agit aussi de personnes handicapées. Nous avons aussi le Raoul Folero, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes de lèpre.
Oui.
Voilà. Nous avons aussi l'association des albinos.
Les albinos
les aussi. Voilà, ceux qui ont des problèmes de teint.
Effectivement.
Voilà. À cela s'ajoutent encore les IMC, infirmité motrice cérébrale. Ça, il s'agit des enfants qui généralement ne peuvent rien faire d'eux-mêmes.
Il faut qu'ils soient assistés.
Sont constamment assistés par leur maman le plus souvent.
D'accord.
Parce que même s'ils voient un danger, malgré qu'il peut peut-être avoir l'âge de se sauver, même s'il voit un danger, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas se sauver. Il est là. Il faut que la maman lui arrive en aide chaque fois. Certaines personnes pensent que c'est des enfants, des rois en Hausa, on les appelle, ou on pense que c'est du fétichisme qu'il y a dedans, alors que ce n'est rien d'autre, c'est un handicap.
Et on en trouve toutes ces catégories d'handicap ici, à la Tawa.
Bien sûr que oui.
D'accord. Alors,
il y a toutes ces catégories d'handicap au niveau de Tawa.
Okay.
Il y a aussi les déficients intellectuels, les déficients mentaux, ceux qui ont des problèmes de psychiatrie.
Oui, je le disais plus haut, pour rappel, le Niger a ratifié plusieurs instruments internationaux des droits humains, dont la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006. Le Niger aussi a réaffirmé dans sa constitution du 25 novembre 2010 son attachement au principe de l'état de droit et son engagement à garantir les droits des personnes handicapées. Aujourd'hui, à Tawa, est-ce que vous pensez que les personnes handicapées jouissent pleinement de leurs droits?
Comme l'a si bien dit le représentant de la DRSP, dire qu'ils jouissent pleinement, c'est trop dit. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Je vais dire que, dans tous les cas, nous avons la convention relative aux droits des personnes handicapées, comme vous venez de l'indiquer. Cette convention-là, c'est son application, sa mise en application qui pose problème presque partout, et c'est à tous les niveaux.
Et qu'est-ce qui bloque selon
vous? En fait, il y a un problème de compréhension. Il y a encore un problème de, mentalité, parce que les choses changent selon les régions ou selon les localités.
D'accord.
Souvent, certains problèmes que nous vivons ici à Tawa, ce n'est pas évident que Maradi ou Zander connaissent ce genre de problèmes. Ou des problèmes qu'eux, ils connaissent là-bas. Nous, ici, ce n'est pas évident, alors que c'est le même pays, c'est les mêmes Nigériens et c'est les mêmes textes. Alors, pourquoi dans l'application trouver des différences? Il y a bel et bien de l'évolution. Actuellement, la Fédération est à pied d'œuvre pour chercher à ce qu'il y ait la compréhension d'abord du droit de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Merci bien. Monsieur Garba Haruna, vous êtes le premier vice-président de la Fédération. Aujourd'hui, pour parler donc de la situation des personnes handicapées, quel est votre regard, quelle est votre analyse?
Donc, l'analyse que je vais faire est que
ici à Tawa, oui.
L'handicap déjà est un facteur de pauvreté. Donc, prendre en charge une personne handicapée a un coût qui dépasse largement les personnes qui n'ont pas l'handicap. Donc, il y a des coûts liés à l'handicap. Et si vous prenez les planifications, si vous prenez l'exemple du plan régional de développement, une fois on a eu à l'analyser avec l'appui d'un partenaire, plus précisément le CBM, tenez-vous, il n'y a qu'un seul endroit où le mot personne handicap apparaît. C'est dans le côté où on parle de centre de formation professionnelle. Et même là aussi, c'est d'une manière vague. Donc, il y a eu un renforcement des capacités des conseillers régionaux pour que dans l'avenir, dans tous les secteurs, donc dans tous les domaines, on peut avoir des personnes handicapées, que ce soit l'agriculture, l'élevage, l'éducation, la santé, dans tous les services sociaux de base, des personnes handicapées qui sont des citoyens à part entière peuvent aussi chercher donc avoir des prestations. Donc, dans l'avenir, la formation, l'objectif est que le nouveau PDR, le nouveau donc, plan de développement régional, donc, soit inclusif. Pourquoi inclusif? Parce que même si vous prenez les OMD, les objectifs millénaires, donc, et même les ODD, Agenda 2030. C'est très inclusif, donc il faut que le Niger aussi l'interne. Si le plan de développement régional est inclusif, ça veut dire que les plans de développement communaux au niveau des arrondissements, au niveau des communes aussi, doivent être inclusifs. Et un projet peut venir regarder le plan de développement d'une commune et dire voilà ce que je peux prendre. Et les projets, c'est des exemples. Donc comme c'est des illustrations, qui sont des modèles qui sont en train de montrer, la population et l'État doit s'approprier pour que ça soit un réflexe pour tous.
Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui dans votre société, ici même à Ottawa, est-ce que vous, personnes handicapées, vous êtes associées aujourd'hui dans les questions même de développement?
Donc il y a eu vraiment une amélioration. Auparavant, on prend des décisions pour nous, on planifie pour nous. Maintenant, on implique la fédération, qui est une structure fêtière de toutes les organisations de personnes handicapées ou pour les personnes handicapées. Il y a vraiment une amélioration.
D'accord.
Que ce soit la notre direction de tutelle, que ce soit au niveau centralisé ou décentralisé. Donc, on nous associe pour nous demander, parce qu'on sait qu'on a l'expertise. Vu le fait que toutes ces associations que le président avait citées font partie, il y a même des ONG. Donc maintenant, le fait qu'on nous implique et dans la mise en œuvre et dans l'application, et même au niveau des évaluations, là vraiment il y a eu un changement. Donc on commence à avoir vraiment une nette amélioration de taux de réussite.
Merci, je reviendrai vers vous. Alors, Madame Oumou Kaltoum, vous êtes membre de l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs, section de Tawa. Pour parler de votre situation, comment vous pouvez la décrire?
Bonsoir, Madame. Et conformément à l'article 6, les femmes handicapées, les femmes handicapées sont exposées à des multiples discriminations que les États reconnaissent.
Telles que
assurer le plein épanouissement et la promotion de l'autonomisation.
Vous vouliez dire qu'aujourd'hui, les femmes ont des difficultés à joindre les bouts, les femmes handicapées ici à Ottawa?
Oui.
Vous, précisément, aujourd'hui, vous êtes une personne en situation de handicap. Qu'est-ce que vous faites de la vie active?
Enseignement.
Vous êtes enseignante?
Oui, je suis enseignante.
À l'école primaire ou?
Presco.
Au préscolaire. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous arrivez à faire votre activité sans contrainte, sans difficulté, avec l'handicap que vous avez aujourd'hui? Comment ça se passe sur le terrain?
Ça se passe comme les autres.
Vous n'avez aucune difficulté?
Aucune difficulté.
Donc, comme on le dit, l'handicap n'est pas une fatalité.
Une fatalité, oui.
D'accord. Monsieur Ilo Zahirou, vous venez d'entendre les précisions de ces personnes handicapées de la fédération. Aujourd'hui, comment vous accompagnez ces personnes-là pour une meilleure insertion dans la société?
Merci beaucoup, madame. Et effectivement, comme ils l'ont dit, quand vous prenez dans les temps, il n'y avait même pas, au niveau des régions et des départements, il n'y avait même pas de fédération, il n'y avait pas des associations. Mais à partir d'un moment, et on a essayé de mettre vraiment en place les fédérations départementales, n'est-ce pas? Et les fédérations départementales ont mis en place donc les fédérations et régionales. Et comme ils l'ont précisé, au niveau de chaque structure, quand vous prenez au niveau des départements, au niveau des régions, il y a ces structures, il y a des associations, et locomoteurs, aveugles, sourds, et tout ça là, n'est-ce pas? Et c'est ça qui sont concourus pour avoir une fédération. Et donc, c'est que nous les accompagnons, effectivement, comme vous l'avez dit, à chaque fois, quand il y a une activité à passer, ils demandent vraiment un conseil technique de notre part, et on les accompagne, on les précise, on les cadre, on les dit, bon, voilà ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas? Vraiment pour que ça soit une réussite.
D'accord. Alors, je reviens vers vous, le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, section de Tao Mokhtar. Aujourd'hui, quels sont les plus grands problèmes des personnes handicapées de la région de Tao?
Merci bien, madame. Ce que je vais appeler plus grand problème, j'allais dire que c'est la stigmatisation ou souvent le laisser à soi-même.
C'est-à-dire oui.
C'est-à-dire une personne handicapée. Déjà, le poids de l'handicap existe. Et encore, la pauvreté se lie sur tout le visage, sur tout le corps, mmh. de la tête aux pieds. Mmh. Celui-là passe presque toute la journée en train d'errer dans les rues, devant les mosquées ou devant les feux optiques, mmh. en train de chercher de l'aumône, du sadaka, comme on le dit. Mmh. Bien vrai, on en trouve des personnes qui ne sont pas handicapées,
oui,
qui sont dans ce système-là. Mais nous avons tendance à coller ça aux personnes handicapées.
C'est-à-dire la mendicité, certains qui s'adonnent à la mendicité, oui.
Oui, mmh. certains qui s'adonnent à la mendicité. Mmh. Souvent, il nous arrive d'avoir des partenaires qui tentent d'aider. Souvent, ça marche, souvent, ça a des difficultés pour marcher.
D'accord.
Parce que il y a souvent des façons de faire. J'allais dire même de ceux qui font les appuis, parce qu'ils arrivent souvent de faire des choses sans pour autant associer de plein pied mm-hmm. le concerné. Mm-hmm. Et on se met souvent dans un bureau, on décide pour lui, et on sort, on vient, on lui fait, on lui brandit le résultat de sa réflexion, et voilà, viens, voilà ce que tu vas faire.
D'accord.
Souvent, ça cause des difficultés.
Ok. Alors, Monsieur Garba, vous pouvez donc compléter le président. Vous, aujourd'hui, personnes handicapées, en général, toutes les personnes handicapées de la région de Tawa, quels sont leurs besoins aujourd'hui?
Donc, à mon avis, le plus grand besoin des personnes handicapées se focalise vers la zone rurale. Mm-hmm. Parce que, d'après les statistiques, les personnes handicapées sont... Le taux de population de personnes handicapées dans la zone rurale est plus élevé que dans la zone urbaine. Bien qu'il y a aussi l'exode rural. Mais le grand problème, c'est depuis l'éducation. Et depuis l'éducation, parce qu'il y a des femmes qui se sont vues divorcées parce qu'ils sont en train de prendre en charge de donner plus de temps à leurs enfants qui ont l'handicap que leur mari. Mm-hmm. Il y a les enfants qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont donc jetés dans la rue pour faire la mendicité, alors que s'ils sont à l'école, on va les préparer à la vie active. Mm-hmm. S'ils sont dans des ateliers pour apprendre un métier qui va les rendre autonomes dans l'avenir, ce serait plus salutaire que de les amener dans mm-hmm. la rue. Mm-hmm. Certes, il y a l'approche caritative, mais l'approche basée sur le droit social est encore plus en vogue et encore meilleure pour une résilience de ces personnes handicapées.
Parlons de résilience aujourd'hui. Comment elles arrivent à s'adapter face à la situation, ces personnes handicapées dans la société?
Donc ça dépend du degré de la protection, sociale, donc de l'appui, parce que les personnes handicapées sont vraiment censé d'être aidé, comme c'est un facteur de pauvreté, sans appui, un appui familial d'abord, ensuite un appui environnemental, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'handicap, c'est aussi l'interaction avec l'environnement. Il faut qu'il soit en mesure de jouir de participer à la société d'une manière pleine et effective.
Oui, d'accord.
Donc, et que ça soit durable. Donc, tant qu'il n'y a pas d'appui, par exemple, les femmes qui ont un double handicap, mm-hmm. il y a le facteur genre qui est pesant sur eux, comme elles sont femmes, mm-hmm. filles, et il y a encore l'handicap. Donc, tant qu'elles ne sont pas appuyées, donc vraiment, ils vont risquer de chuter dans un degré de vulnérabilité.
Je reste toujours avec vous. On sait que l'éducation est l'un des droits fondamentaux de l'être humain ici à Tawa. Est-ce qu'il y a des avancées réalisées dans le cadre de la promotion du droit à l'éducation des personnes handicapées?
Donc, on peut dire que, sans se tromper, qu'il y a vraiment des avancées. Donc, le fait qu'ici, autour de cette table, il y a nous trois qui sommes tous des fonctionnaires de l'État. Mmh. Donc ça encourage et les familles des enfants handicapés et même ses enfants. Et à titre illustratif, donc pour votre information, à l'université, on n'a pas moins de 3 étudiants qui ont l'handicap et qui font le droit, dont deux déficients visuels. Donc, si vous prenez le secondaire...
Si vous coupez la parole, ils sont accompagnés par l'État?
Donc, ils sont accompagnés parce que avec leur... ils ont même une association, une association des personnes handicapées. Donc, ils ont des dérogations d'âge, ils ont des dérogations pour acquérir les bourses. Donc, vraiment, ils sont accompagnés. Et ceux de secondaire, généralement, il y a d'autres à qui on attribue des... suite à des plaidoyers de la fédération, on attribue des allocations. Sauf que c'est au côté des élèves et étudiants, on n'en a pas encore des étudiants, des élèves déficients, entendants, non-entendants et malentendants, c'est là où il y a tel énormément de problèmes. À l'école primaire, ils n'ont pas de problème, mais dès qu'ils arrivent au collège, donc c'est vraiment un tas de problèmes parce que la communication ne passe pas entre eux, entre pères, élèves et entre enseignants.
Mais après même l'obtention des diplômes, est-ce qu'ils ont des difficultés à poursuivre les études supérieures, les élèves en situation de handicap?
Donc s'ils sont vraiment informés au niveau urbain, ils n'ont pas de problème parce que il y a les associations, il y a nous autres qui les accompagnons, on les oriente, et il y a les services étatiques aussi qui conseillent et qui apportent leur appui technique, donc qui leur fait des dérogations pour qu'ils continuent. Et l'appel que j'ai à lancer, surtout le fonds de solidarité, le fonds de soutien, si ça existait, à un moment donné, avec ce fonds de solidarité qui était vraiment une harmonisation de la convention relative aux droits des personnes handicapées à travers une loi. Donc, depuis que ce fonds n'existait pas, donc les étudiants souffrent pas comme avant. Avant, on les attitait des ordinateurs, on les appuyait et très malheureusement, s'ils n'ont pas la bourse, s'ils n'ont pas l'aide sociale, donc c'est pas facile pour eux.
Donc, oui, vous voulez ajouter, monsieur le président?
Par rapport à l'UNAN, pas l'UNAN, mais l'ASN, l'Association des Sourds du Niger.
Oui.
Au niveau des écoles primaires, au niveau de la commune de Tawa, je ne parle pas d'autre chose. Mais au niveau de la commune d'Ottawa, il y a des enseignants qui prennent les enfants non-voyants ou les enfants handicapés
en général.
Mais les non-entendants ont des difficultés. À partir de l'école primaire, effectivement, il y en a des enseignants qui les prennent en charge, qui font la communication en langue de signes. Mais ce problème se trouve au niveau du collège.
Du secondaire.
Secondaire. Dès qu'on le trouve au secondaire, devant, n'en parlons pas.
Il n'y a aucun dispositif qui est mis en place pour accompagner
pour
ces...
En tout cas, quelque chose a commencé à se manifester comme si il y aura quelque chose, mais en vérité, il n'y en a pas. Ce qui fait que les non-entendants ou les non-entendantes qui se retrouvent à l'école primaire, à partir du collège, elles sont à la maison. Donc ça veut dire que leurs frères qui sont derrière, ne partiront pas. Parce qu'on a bien et bien vu ceux qui arrivaient à l'aîné. Voyez-vous, c'est ce qui...
Donc c'est une situation qui est une réalité ici même à Tawa.
À Tawa, effectivement, ce
problème-là. Monsieur Ilo, voilà, monsieur Ilo Zahirou, vous avez entendu vos prédécesseurs. Certes, il y a des avancées en ce qui est de la promotion de l'éducation des personnes handicapées, malgré quelques insuffisances.
Bon, juste pour apporter un atout par rapport à leur intervention. Oui. Et comme vous prenez, même au niveau du non-voyant, on a un sérieux problème. Parce que là où j'ai quitté, je me rappelle bien, pour ceux qui sont au collège, maintenant, quand il y a des devoirs, il faut qu'on fasse appel à l'enseignant des primaires pour venir corriger. Alors que normalement, si on veut faire une inclusion, on doit avoir des enseignants directs qui sont là, posés, ils sont là pour les élèves au secondaire. Mais si, à chaque fois, il faut qu'on fasse appel
à d'autres
enseignants pour venir, moi, je pense que c'est un autre problème. Donc, ne parlons pas des malentendants, comme ils l'ont dit, comme ils l'ont souligné. Et à l'école, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils arrivent au niveau secondaire, leur carrière s'arrête là. Et ça ne donne pas bonne image pour ceux qui vont venir.
Effectivement.
Ils vont se dire, même nos frères n'ont rien fait à plus forte raison, nous. Et le problème, c'est quoi? Maintenant, ça donne la carte blanche à la mendicité.
Effectivement.
N'est-ce pas? Donc,
ce
mais,
qui gangrène nos sociétés.
Oui, notre société. Notre société. Et pour revenir un peu par rapport aux problèmes qui rencontrent au moins les personnes en situation de handicap au niveau de la région d'Ottawa, c'est l'insuffisance des partenaires. Peut-être qu'ils ont omis de les souligner. Vraiment, on a une insuffisance notoire des personnes.
Il a un peu soulevé la
oui,
question.
Effectivement, mais il n'a pas parlé concrètement.
Voilà.
Vraiment, on a une insuffisance. Aujourd'hui, on n'a pas de. Par rapport, au, par exemple, à Niamey,
à d'autres oui.
régions. Nous, au niveau de l'État, vraiment, peut-être, je dirais, sans risque de me tromper, si, même si on a des partenaires, ça ne dépasse pas vraiment un à deux partenaires, ceux qui appuient vraiment des personnes et la fédération. Voilà.
D'accord. Ok, donc l'insuffisance des partenaires aussi est un facteur qui freine, si je peux le dire, une bonne réinsertion de ces personnes handicapées dans la société.
Oui, parce que quand vous avez un partenaire qui vous appuie, je ne dis pas, parce que quand vous prenez un ami, l'exemple d'un ami, vous allez voir, il y a des partenaires qui prennent en charge, qui peuvent prendre en charge jusqu'à 6 mois une famille de personnes handicapées. On vous donne à manger. Donc quand on vous garantit le manger, on vous vend quoi ? Dévouez-vous pour avoir vraiment un métier à faire, n'est-ce pas? Et par exemple, aujourd'hui, on dit qu'on a besoin de quoi? De matériel pour vraiment confectionner tel instrument. Mais quand on n'a pas ces matériels, on n'a pas les moyens d'en acheter, on fait quoi? On est obligé de rester croiser les bras. Mais si on a des partenaires qui sont prêts à nous appuyer, à nous aider, vous allez voir vraiment la situation même de mendicité va diminuer.
Oui, justement. Alors, merci bien. Madame Oumou Kaltoum, handicapée locomotrice, la Convention relative aux droits des personnes handicapées souligne que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur leur handicap. Elles ont droit donc aux services de santé qui prennent en compte les sexo-spécificités, y compris des services de réadaptation pour leur permettre de jouir pleinement de tous les droits et de toutes les libertés. Ici, au Ottawa, est-ce que les femmes ont un accès équitable aux soins?
Oui.
Est-ce que les passages pour personnes handicapées, parce qu'il y a des personnes locomotrices comme vous, est-ce qu'on a réservé des passages pour ces personnes-là déjà dans les centres de santé?
Oui, c'est réservé.
Est-ce qu'au cours des consultations, vous ne subissez pas des discriminations lors des consultations? Que ça soit prénatal, les femmes?
Moi, je n'ai jamais subi une discrimination.
D'accord. Alors, le président, quelle est la situation de l'accès aux soins des femmes ici?
Comme toutes les autres femmes, souvent, il y a des difficultés. Parce que, j'allais dire... il y a des services sanitaires, même si ça dérange un peu de le dire, dont l'accueil n'est pas du tout ça. Et imaginez, une fois que un malade est mal accueilli, déjà c'est fini. Je crois que tout se dessine à partir de là-bas. Et même les infrastructures, c'est-à-dire les rampes d'accès,
les rampes, oui.
Les toilettes. Bien vrai, ça ne fait pas très longtemps que certaines corrections sont en train d'être apportées, mais jusqu'ici, il en reste encore beaucoup. Et surtout que il y a l'accessibilité ne peut pas venir d'un seul coup. C'est progressivement. Il faut d'abord qu'on le comprenne. Il faut d'abord qu'antérieurement qu'on comprenne que vraiment l'accessibilité est la première des portes pour toute personne qui a besoin de services sociaux de base.
Oui, mais est-ce que vous avez déjà plaidé pour avoir ces différents accès dans les infrastructures?
On a fait et on est en train de faire et on va continuer, s'il plaît à Dieu, parce que ça ne fait pas longtemps. Actuellement, nous sommes sur un projet HIMA de la Fédération nigérienne des personnes handicapées qui est en train de faire beaucoup de choses, que ce soit dans le cadre de la sensibilisation ou même souvent pour même apporter des appuis pour qu'il puisse y avoir ne serait-ce que des aménagements, ce que nous appelons aménagements raisonnables pour ne pas mettre toutes les personnes handicapées de côté.
D'accord.
Il faut faire au moins des aménagements qui peuvent permettre de récupérer au moins ce qui est récupérable.
Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes ici à Tawa pour parler de la problématique de l'insertion des personnes handicapées dans la vie active à Tawa. Et nous sommes avec M. Mokhtar Seydou Mohamed, président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, section de Tawa. M. Garba Haruna, premier vice-président de la Fédération. Mme Oumou Kaltoum, membre de l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs. Et M. Illo Zahirou, le communicateur de la Direction régionale de la santé publique, de la population et des affaires sociales d'Ottawa. On reconnaît que malgré leur handicap, certaines personnes handicapées se forment et travaillent pour gagner dignement leur vie comme toute personne normale. Monsieur Garba, ici à Ottawa, quelles sont les différentes activités génératrices de revenus que les personnes handicapées exercent?
Merci de m'avoir posé cette question très pertinente. Et je m'attendais à cette question. Il y a des personnes handicapées, à cause de leur dignité intersecte, ne voulaient pas de l'approche caritative. Donc, préfèrent vaquer à des occupations d'une manière ou d'une autre pour vraiment joindre le debout. Si vous prenez le cas des artisans, donc ils essaient de vivre de leur métier, sauf que ils sont en train de subir une mévente depuis qu'il n'y a plus des touristes. Donc, ils sont en train de vivre des méventes vraiment qui peut les faire vraiment chavirer dans la vulnérabilité. Sinon, il y a beaucoup qui font le métier professionnel. Il y a beaucoup qui essaient d'être vraiment dignes et d'avoir des foyers. Mais faute d'un métier vraiment porteur, parce qu'il ne sert à rien d'apprendre à une femme de faire la couture, alors que la couture là ne va pas la prendre en charge.
Effectivement.
Il y a des gens qui pensent que comme elle a l'handicap, donc la couture là qu'elle va faire, donc le fruit de son travail aussi doit être vraiment acheté d'une manière vraiment dérisoire.
Donc l'écoulement de leurs produits aussi
cause beaucoup de problèmes.
Mais généralement, comment ils arrivent à les écouler, les personnes handicapées, donc, ceux qui produisent ici à Tawa?
Généralement, si ça ne va pas, ils sont obligés de brader pour ne pas aller tendre la main. Et quand on brade, ça veut dire que le capital aussi va partir.
D'accord.
Donc, c'est ça le grand
problème. Madame Oumou Kaltoum, aujourd'hui, les femmes de Tawa, quelles sont les principales activités génératrices de revenus qu'elles font?
Donc, les principales activités génératrices de revenus des femmes handicapées de Tawa, couture, modélage.
Modélage, oui. Elles confectionnent des sacs ou bien qu'est-ce qu'elles font?
Des sacs.
Est-ce qu'elles excellent aussi dans la transformation des produits agroalimentaires?
Oui.
Comme quoi?
L'encens.
Elles font de l'encens?
De l'encens, oui.
Elles fabriquent, ok, de l'encens. Et elles le font sans difficulté ou bien comment ça se passe? Comment elles arrivent à revendre leurs produits aujourd'hui? Est-ce qu'elles participent à des foires? Elles partent au marché? Comment elles arrivent à vendre leurs produits qu'elles font?
Parfois, elle participe à des foires.
Mais est-ce que vous, précisément, vous avez une activité que vous faites? Qu'est-ce que vous faites?
Commerce. Des ustensiles des femmes de cuisine.
Ustensiles de cuisine, oui.
Oui.
D'accord. Et ça marche pour vous?
Oui.
Vous arrivez à gagner?
Avec l'élevage encore.
Donc, vous élevez des volailles chez vous?
Oui.
D'accord. Et ça marche?
Ça marche.
Ça vous aide à être un peu autonome, si on peut le dire?
Oui.
D'accord. Merci bien. Alors, Monsieur Illo Zahirou, les personnes handicapées, malgré leur handicap, arrivent vraiment à exercer des métiers pour être assez autonomes. Est-ce que vous arrivez à les accompagner? Parce que la problématique, c'est l'écoulement de leurs produits. Qu'est-ce que vous faites pour leur faciliter l'écoulement de leurs produits?
Organiser, comment on appelle ça? Des foires et autres là ne relèvent pas de notre compétence en tant que service technique. Mais peut-être ce qu'on peut faire, c'est de demander des stands quand il y a des organisateurs, Maintenant, par exemple, les chambres de commerce qui organisent les foires, on peut demander peut-être des stands pour les personnes handicapées pour qu'elles exposent leurs produits. Oui, parce que tout à l'heure, quand je vous ai parlé du manque de l'insuffisance des partenaires, donc, comme l'a dit, l'a souligné M. Garba, depuis que les touristes ne viennent plus, vraiment, les personnes handicapées sont confrontées à un sérieux problème d'écoulement de leurs produits. Donc, il n'y a que pendant les foires, là où on peut demander des stands pour les personnes pour pouvoir. Là aussi, ce n'est pas écoulé, c'est juste pour avoir quelques achats. Quoi.
D'accord. Oui. Alors, Monsieur le Président de la Fédération, aujourd'hui, toutes ces personnes handicapées qui pratiquent des activités pour joindre les deux bouts, que fait votre association pour vraiment leur favoriser ou bien les accompagner aussi? Est-ce qu'il y a des initiatives?
Il y a bel et bien des initiatives parce que périodiquement, il y a au niveau national des foires qui sont organisées où toutes les régions sont invitées. Et en ce moment, les personnes handicapées des régions prennent part aussi à ces foires qui sont organisées à partir de Niamey. Mm. Donc tout ceci, c'est des actions qui permettent ou qui facilitent l'écoulement.
Mais ici, au niveau même régional, qu'est-ce que vous faites précisément?
Au niveau régional, c'est là-bas où ça piétine un peu. Parce que, comme l'a si bien souligné le SG, certaines personnes pensent que les personnes handicapées ou les produits confectionnés par les personnes handicapées sont aussi des produits handicapés.
Mm.
Et donc, une
donc la discrimination,
la discrimination, ça y est partout, ça se lit sur ça se lit partout.
D'accord.
Mais malgré tout, quand même, il y en a qui arrivent, il y en a qui font du petit commerce, il y en a qui font des activités génératrices de revenus des personnes handicapées, j'en connais, et des femmes et des hommes qui les font. Actuellement, je connais un soudeur, un constructeur métallique, il est ici dans un quartier qu'on appelle Wadata. Depuis que je l'ai connu, il vit toujours dans son atelier avec ses apprentis derrière lui et il loge dans sa propre maison. Tenez-vous bien, il a 4 femmes.
C'est fascinant. Donc il est handicapé, il a une activité et il emploie aussi des...
Exactement. Il y en a derrière lui. Il y a des personnes qui ne sont pas handicapées qui trouvent aussi leur compte sous sa coupe.
D'accord.
J'en connais aussi des dames qui font du petit commerce, souvent les femmes qui frisent des beignets.
L'exemple de Mme Moukaltoum qui est là, qui fait du commerce aussi. Mais aujourd'hui, comment briser les barrières qui freinent le leadership de cette frange de la population, des personnes handicapées ici à Tawa? Comment briser les tabous?
À mon avis, il faut vraiment non seulement de l'expertise, et beaucoup de sensibilisation. Il faut que les personnes handicapées arrivent à démontrer qu'elles sont vraiment capables, que ce qu'on pense, ou à démontrer le contraire à ceux qui ont une mauvaise idée ou ceux qui avaient déjà s'imposer sur le plan social. Et en ce moment, le reste viendra de lui-même.
D'accord, merci bien. Alors, Monsieur Garba, comme le temps est contre nous, aujourd'hui, comment favoriser une meilleure insertion des personnes handicapées dans votre société ici, ou bien précisément
donc,
à Tawa?
Comme je le disais, donc il y a des projets qui ont fait leur effort. Si vous prenez le cas de Voice, on a eu une festival, donc on a eu l'organisation du festival Voice, et les artistes, les sportifs et même les artisans ont eu l'occasion de faire montrer ce qu'ils sont capables de faire. Si vous prenez tout récemment avec un partenaire comme l'ASB, il y a eu la promotion du football et à travers à marche, il y a eu des démonstrations de sport pour des jeunes. Et ici, je profite de l'occasion pour remercier, par exemple, le Conseil de jeunes qui essaie de nous faire mobiliser chaque fois dans des activités qu'ils font. Ils nous demandent d'orienter des jeunes pour qu'ils se sentent vraiment aussi à l'aise, parce que s'ils n'ont pas confiance en eux, donc ça ne serait pas facile. Et la fédération a fait de son, et la fédération et l'autre direction de tutelle font de notre mieux, parce qu'il y a des renforcements de capacités où on forme les femmes et les autres personnes handicapées. D'accord. Pour qu'ils arrivent vraiment à connaître ce qu'ils ne connaissent pas. Et en participant à des ateliers, à des sensibilisations, ils nous font des témoignages. Et avec ces témoignages, on essaie d'avoir des solutions. D'accord. Pour faire face à la résidence.
Et en un mot, quel appel à l'État pour permettre...
Donc l'appel à l'État, c'est surtout, il y a des textes déjà par rapport aux principes fondamentaux de relatifs aux droits des personnes, la promotion des droits des personnes handicapées. Il y a des lois et même des décrets d'application pour la protection sociale. Donc c'est d'essayer de les appliquer et de les faire descendre juste dans les communes, et que même ceux de la zone rurale donc, profitent. Il y a des fêtes, par exemple la journée nationale des personnes handicapées le 31 juillet. Il y a la journée internationale des personnes handicapées. Et on est chaque fois interpellé par ceux de la zone rurale pour nous dire qu'ils nous ont vus à la télé ou qu'ils nous ont entendus à la radio. Et eux, quand est-ce qu'on va venir, eux aussi, leur faire une mise à jour.
Merci bien.
Et aussi, le reconditionnement du... Garba l'a déjà dit antérieurement, du fonds de soutien aux personnes handicapées.
D'accord.
Nous tenons vraiment
On espère que ça soit directement dans les oreilles des autorités. Madame Oumou Kaltoum, quel est votre appel pour une meilleure insertion de vous, personnes handicapées, ici à Tawa?
Apporter de l'aide. Adapté à leur handicap.
D'accord. Merci bien. Donc, Ilo Tsahirou, quel est votre dernier mot par rapport à cette question de l'insertion?
Mon dernier mot, en réalité, il faut qu'il y ait un changement de comportement de deux côtés. Du côté des personnes handicapées et aussi de la société. Parce que on a cette mauvaise habitude qu'on a un handicap, c'est comme ça vous donne carte blanche pour mendier, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on change, il faut qu'on se dise que non, avoir un handicap ne veut pas dire que rester mendier tout ça là, non. Tout comme les autres couches sociales, ils sont là, ils peuvent participer au développement économique de notre communauté, les personnes handicapées aussi, et ne font pas, comment on appelle ça, ils peuvent le faire. Il suffit d'un appui de la part de l'État. Il faut qu'il y ait la volonté politique.
D'accord.
Parce que tous ces textes-là, tant qu'il n'y a pas la volonté politique, vraiment, il serait difficile d'en arriver au sujet.
Merci. Il faut donc,
donner la liberté de s'exprimer librement ses opinions.
D'accord. Alors, il faut donner à ces personnes handicapées la libre expression de leurs idées. Il faut donc qu'il y ait aussi un changement de comportement du côté de la société et des personnes handicapées aussi. Le handicap n'est pas une fatalité. Aux personnes handicapées de s'imposer pour mieux être considérées dans la société. À l'État aussi d'accompagner cette frange de la population dans la vie active en favorisant aussi l'application des différents principes fondamentaux des droits des personnes handicapées. C'est ici donc que prend fin cette émission qui a porté sur la problématique de l'insertion des personnes handicapées dans la vie active ici à Tawa. Nous remercions à M. Mokhtar Seydou Mohamed, président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées section de Tawa. Merci d'être venu. Monsieur Garba Harouna, premier vice-président de la Fédération également, merci à vous. Madame Oumou Kaltoum, membre de l'Association nigérienne des handicapés locomotrices, merci aussi. Et enfin, Monsieur Ilo Tsahirou, communicateur de la Direction régionale de la santé publique, de la population et des affaires sociales, merci à vous d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. La technique est assurée par Moustapha Yuba. Je suis Nafissa Adam Souf à la modération. À très bientôt sur le studio Kalamou.